Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 18? Dieu m'accorde la grâce de ne pas crier avec ses pluies. Genèse 2 au verset 18. La semaine dernière, nous avons ouvert un nouveau chapitre sur notre sujet concernant le mariage. Et je vous assure qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet du mariage. Ce serait vraiment dommage de le survoler rapidement. Et Dieu nous a mis à cœur de vraiment rester dessus. Parce que déjà ici, il y a beaucoup de gens qui viennent ici chaque semaine, qui sont mariés ou qui doivent se marier. Il y en a qui sont fiancés. Donc, ils ont besoin d'entendre ces choses-là. Mais aussi sur Internet, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui écoutent et qui nous écrivent. Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Il y a des gens à qui ça fait du bien. Il y a des gens à qui ça fait du bien. Et le Seigneur nous a mis à cœur de rester dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. La semaine dernière, on a ouvert un nouveau chapitre qu'on a appelé « Comprendre les implications du mariage, ce que le mariage implique ». Qu'est-ce que ça veut dire être marié avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit déjà beaucoup de choses sur ce sujet et le Seigneur, chaque semaine, il nous montre des choses dans la Bible. Et la semaine dernière, on a parlé d'un point que je vais rappeler tout à l'heure. Et là, on va se focaliser sur autre chose. Mais avant, on va lire la parole. Genèse 2, verset 18, qui est notre passage, nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. » Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, dis avec moi, s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est un passage très profond. C'est dans ce passage que Dieu nous révèle le mystère du mariage. Et le jour où tu t'arrêtes dessus, le jour où tu t'arrêtes dessus, et que tu commences à méditer sur ce passage, tu vas voir que Dieu va te montrer beaucoup de choses en ce qui concerne le mariage. Dis avec moi le mariage. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point. S'attacher à son époux, condition nécessaire pour bâtir un mariage heureux. S'attacher à son époux et s'attacher à son épouse. Parce que époux ici, c'est le pluriel, c'est-à-dire c'est valable pour monsieur et madame. La semaine dernière, on a ouvert ce chapitre avec le premier principe qui est nécessaire, la première condition qui est nécessaire pour bâtir un mariage heureux, c'est-à-dire le principe de quitter son père et sa mère. Dis avec moi, quitter son père et sa mère. Et ça, ce sont des principes qui sont très importants, qui détruisent des foyers. Le premier principe qu'on a vu ensemble la semaine dernière, le quitter son père et sa mère, est quelque chose qui est très présent, particulièrement en Afrique chez nous. C'est aussi présent ailleurs. Mais chez nous en Afrique, c'est très présent, où les parents se mêlent de tout dans les familles. Donc on a dit beaucoup de choses là-dessus, et on a insisté sur le fait que quitter ses parents est la première implication dans le mariage. Toute personne qui se marie doit laisser ses parents à sa place. C'est très important. Et je rappelle une chose, c'est que au moment où cette scène-là se déroule, l'homme est parfait. L'homme n'a pas encore péché. L'homme est à l'image de Dieu. Et il découvre celle qu'il cherchait, c'est-à-dire Ève. Et là, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que Dieu n'avait aucun problème avec Adam. Adam n'avait aucun problème avec Dieu. Tout homme a des parents, papa et maman. Et Dieu jouait le rôle de papa et de maman pour Adam. Et Dieu, quand il voit son fils en train de travailler, il lui dit, je vais lui créer une aide, quelqu'un qui va l'aider à atteindre le but pour lequel je l'ai créé, c'est-à-dire la domination. Dis avec moi la domination. Parce que la domination, c'est le but pour lequel Dieu a institué le mariage. Dieu a destiné l'homme à la domination et il l'unit à Ève pour être une aide semblable et l'aider à atteindre son objectif, la domination. Donc le mariage a été institué pour la domination. Mais Dieu dit, c'est super, Adam est là, avec, on est ensemble, et je vais former, parce que j'avais déjà créé la femme, d'accord? Vous vous rappelez, homme avec un petit H dans ce passage, c'était le mot hébreu zakar. Et femme dans ce passage, c'est le mot hébreu nekeba. D'accord? Donc notre ami Zakar et sa compagne Nekeba ont décidé, enfin Dieu les a unis. Dieu c'est un faiseur de mariage. Et Dieu était là avec eux dans le jardin. Sauf qu'il se passe quelque chose de très particulier, c'est que lorsque Dieu forme la femme, la nature même de la femme se manifeste. Il se rend compte que cette femme-là, elle a une particularité, celle d'écarter mon fils de moi-même. Et quand il l'amène, pour aller vite, quand il l'amène à l'homme, ce n'est pas Dieu qui fait une déclaration, c'est l'homme qui fait la déclaration. Au lieu que l'homme dise, oh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, point. Et qu'il s'arrête là, monsieur, il rajoute une phrase en disant, l'homme quittera son père et sa mère. Et Dieu dit, oh, mais comment, tu veux me quitter? Moi, ton père, tu veux me quitter? C'est lui qui a choisi de quitter. D'accord? C'est lui qui choisit de quitter. Et quand il choisit de quitter, il ne laisse même pas le choix à Dieu. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à celle-là, sa femme. Et quand Dieu voit ça, Dieu ne peut rien faire parce que c'est l'homme qui a décidé. Amen. Et c'est pour cela que je disais que lorsqu'une femme entre dans la vie d'un homme, on ne sait pas comment, mais elle a une capacité à prendre le cœur de cet homme-là. Vous n'avez jamais remarqué ça? Même jusqu'à 3 heures du matin, il va rester devant sa porte. C'est comme s'il est devenu... ça, c'est le pouvoir de la femme. C'est extraordinaire. Et ce qui se passe juste après, c'est qu'il dit, et il s'attachera. Il s'attachera à elle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a dit que la séparation, prenant en compte le fait qu'il fallait couper avec ses parents le cordon ombilical affectif, culturel et spirituel, on a donné beaucoup d'exemples. On a dit beaucoup de choses là-dessus, je ne vais pas y revenir. Et on va s'intéresser particulièrement au deuxième point, s'attacher à son époux. Dis avec moi, s'attacher à son époux. Le fait de s'attacher à son époux, là, c'est une clé de la réussite dans le mariage. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'homme était parfait. Et parce que l'homme était parfait, il était comme Dieu. Donc, toute parole qui sortait de sa bouche devenait une loi. Et Adam était le premier homme. Et nous étions tous contenus en Adam. Et quand Adam déclare que tous, que l'homme s'attachera à sa femme, c'est tous qui s'attacheront à leur femme. Le mot femme ici, c'est vrai, concerne directement la femme. Donc c'est d'abord l'homme qui doit s'attacher à sa femme, mais l'épouse aussi doit s'attacher aussi à son homme, d'une certaine manière. Mais c'est d'abord lui qui s'attache à elle. Et quand Adam dit ça, il établit une loi en ce qui concerne le mariage. Une loi. Donc, l'amour parfait dans le mariage, l'épanouissement total dans le mariage passe par les conditions au préalable qu'il faut respecter. Donc, quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. S'attacher à son époux. Ceux qui sont mariés doivent comprendre ça. Que tant qu'ils ne s'attachent pas à leur époux, et on va le développer dans quelques minutes, tant qu'ils ne s'attachent pas à la personne qu'ils ont choisie, avec qui ils ont choisi de se lier, leur mariage, ils ne pourront jamais être totalement épanouis. Ils ne pourront jamais vivre pleinement les promesses du mariage avec Dieu. Nous devons quitter nos parents et nous devons nous attacher l'un à l'autre. L'amour parfait, on ne peut le vivre qu'avec Dieu. Et le seul moyen sur terre d'expérimenter humainement l'amour parfait, le seul moyen d'expérimenter sur terre l'amour parfait, c'est dans le mariage. C'est pour cela que quand Dieu unit l'homme et la femme au travers du mariage, c'est pour la vie. Parce que une fois que on quitte la terre là, l'amour parfait, on ne peut le vivre qu'au ciel avec Dieu directement. Amen. On ne peut pas vivre l'amour parfait en dehors du mariage. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, en tant que célibataire, on vit un amour parfait au travers de Jésus-Christ d'une certaine manière. Mais il y a une dimension de l'amour parfait, l'amour agapao, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour qui n'a de limite que le ciel. On ne peut le vivre que dans le mariage, dans notre chair là. Car le temps viendra après la résurrection où nous pourrons vivre pleinement l'amour parfait lorsque nous serons ressuscités avec Christ et que nous serons revenus avec lui. Mais en attendant, si Dieu veut nous donner un aperçu de l'amour parfait, c'est dans le mariage. C'est pour ça que Dieu, c'est un faiseur de mariage. Et c'est pour cela que le mariage, c'est pour la vie. Dis avec moi, le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Et parce que le mariage est pour la vie, il ne faut pas blaguer avec. Ce n'est pas au moins un problème, on décide de se séparer. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Donc, il faut bien réfléchir. Si j'insiste depuis des semaines, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici et ailleurs qui écoutent. Donc, il ne faut pas blaguer. Nous sommes dans un pays, le Gabon, où le mariage est bafoué. Même au plus haut niveau de la direction du pays, le mariage est bafoué. L'un des symboles de la République de notre pays, c'est une femme seule qui allait être un enfant. Pourquoi? C'est spirituel. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a énormément de jeunes filles seules avec des enfants? Les filles font des enfants dans tous les sens. Les gars sont absents, s'en vont, manquent de responsabilité et n'assument pas. Donc tout ça, ça détruit le mariage, ça détruit les foyers. Et quand la famille est atteinte dans la société, la société est malade. La société est malade. Et au Gabon, la société est sérieusement malade. Donc, seule la mort peut mettre fin à un tel amour. Même Dieu ne peut pas désunir cet amour, car c'est lui qui l'a uni pour la vie. Il n'y a que les époux eux-mêmes qui peuvent mettre fin à cet amour et demander le divorce. Ah, le divorce, tiens donc. On va faire cette parenthèse. Qu'en est-il du divorce? Est-ce qu'on peut divorcer? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. On peut divorcer en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut? Je réponds, le divorce n'est pas de Dieu et ne vient pas de Dieu. Le divorce a été institué par Moïse, qu'il a autorisé à cause de la dureté des cœurs des Juifs. Dieu n'a jamais parlé de divorce. C'est pour cela que quand on soumet le cas du divorce à Jésus, Jésus répond en disant que personne ne désunisse ce que Dieu a uni. Il ne parle pas de divorce, Jésus. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi, mais à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse a autorisé que vous fassiez une lettre de répudiation. Mais la Bible nous dit partout dans les livres des prophètes que Dieu est la répudiation. Donc, le divorce, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne permet dans la parole de Dieu qu'une seule raison valable pour que deux personnes se séparent, c'est l'infidélité. Quand il y a infidélité, là, l'autre conjoint a le droit de dire stop. Ou il a le droit de dire on continue ensemble. C'est la seule raison que Dieu donne. Sinon, Dieu n'évoque dans la Bible aucun problème, quel qu'il soit, où deux personnes peuvent se désunir. Maintenant, quand deux personnes n'arrivent vraiment pas à marcher ensemble et que c'est vraiment compliqué, elles ne peuvent plus. Si elles choisissent de se séparer, parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, il y a des pasteurs qui autorisent la séparation. Si ces personnes-là choisissent de se séparer, elles choisissent de pécher volontairement devant Dieu. C'est un choix qu'elles font et elles vont assumer les séquelles et les conséquences de leur choix. Mais attention, quand des gens se séparent au travers du divorce, il y a des gens dans l'église qui font passer la séparation, qui font passer le divorce comme le péché impardonnable. C'est faux. Dieu hait le divorce et la répudiation, mais Dieu aime toujours les divorcés. Amen. Dieu aime toujours les divorcés. Donc, il y a une vie après le divorce avec le Seigneur. Donc, Dieu dit, ok, tu te sépares, mais tu vas assumer les conséquences de ton acte. Mais Dieu aussi est le Dieu de la restauration. Et quand les deux personnes qui se sont séparées au travers du divorce choisissent de se repentir sincèrement devant Dieu, Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes. Donc, Dieu hait certes le divorce. Pourquoi Dieu hait le divorce? Dieu hait ne hait pas le divorce à cause des personnes. Dieu hait le divorce à cause des dégâts que ça cause derrière. C'est à cause de ça qu'il n'aime pas le divorce. Mais, derrière, quand des personnes se sont séparés, Dieu reste à leur côté pour les soutenir, pour les fortifier et pour les restaurer. Amen. Et quand Dieu restaure et quand Dieu pardonne, quand Dieu restaure et pardonne, la vie recommence avec le Seigneur. Amen. On ferme la parenthèse parce que j'ai tellement eu de questions. J'ai tellement eu de questions qu'il fallait que je réponde à cette question. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Donc, la deuxième clé pour pouvoir s'épanouir dans le mariage, quelles que soient les difficultés que les époux peuvent rencontrer, c'est de s'attacher l'un à l'autre. Dis avec moi, s'attacher l'un à l'autre. C'est très important, s'attacher l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher l'un à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher l'un à l'autre? S'attacher l'un à l'autre, s'attacher à son époux, premièrement veut dire s'attacher à une seule personne. Dis avec moi une seule personne. La fidélité, il s'agit ici de la fidélité. Lorsqu'on décide d'épouser quelqu'un, lorsqu'on décide de s'unir avec quelqu'un, on décide d'être fidèle à cette personne jusqu'à la fin de sa vie. C'est très important. Et là, j'ai envie de couper court à un cas qui est la polygamie. Parce que, vous savez pas que ça fait, il y a des débats comme ça dans l'église. La polygamie n'est pas biblique. Oh, mais pasteur, il y a des gens dans la Bible, ils avaient beaucoup de femmes. Les Abraham, tout ça. Hein? Ils avaient beaucoup. La polygamie n'est pas biblique. La polygamie n'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais parlé à Abraham pour qu'il ait plusieurs femmes. Hein? Dieu n'a jamais parlé à tous les hommes de Dieu qui sont dans la Bible qui avaient plusieurs femmes. Dieu ne leur a jamais parlé. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Genèse 2 au verset 22, l'Éternel Dieu forma la femme de la côte. Dis la côte, dis avec moi la côte. Pas les côtes. La côte. Dieu a sorti une femme, il n'en a pas sorti plusieurs. Donc quand Dieu sort la femme, il est en train de dire à l'homme ici, c'est la femme que je t'ai donnée. La femme. La polygamie n'est pas biblique. Si Dieu a approuvé la polygamie, il aurait sorti plusieurs côtes. L'homme a plusieurs côtes, mais il n'en a pris qu'une seule. La polygamie n'est pas biblique. Amen. Donc, toute autre union avec une autre personne, autre que celle avec laquelle Dieu t'a lié, est un péché. Dis avec moi gloire à Dieu à ça. Parce que Dieu est au contrôle de tout, c'est vrai, mais bon. La polygamie n'est pas biblique. La polygamie vient du fait que les hommes arrangent les lois à leur avantage pour favoriser leurs us et coutumes et leurs traditions. La polygamie ne venait pas de Dieu. En ce qui concerne Abraham, Abraham fut obligé d'épouser Agar parce que c'est sa femme Sarah qui lui a dit « Va épouser cette femme parce que je ne peux pas enfanter. » Dieu n'avait pas parlé à cette femme-là. Et lui aussi, il va. Vous savez, Abraham dans la Bible est appelé le père de la foi. On aime faire des prédications de 2 heures sur l'homme de la foi. Abraham, c'est ci, Abraham, c'est là. Mais Abraham, ce n'est pas le meilleur exemple dans la Bible. Hein? S'il y a bien une famille dans la Bible où il y a eu beaucoup de problèmes, c'est la famille d'Abraham. Ah! Problème avec sa femme. Il sort avec une autre femme. Fait un enfant avec une autre femme. Il ment et vend sa femme à Pharaon. Heureusement que Dieu est intervenu. Abraham, c'était un gars dangereux. Et puis, on l'appelle le père de la foi. Je t'assure, si Abraham, ça s'est passé comme ça, pour toi, il y a vraiment de l'espoir. On m'en dit avec moi, amen. C'est Sarah qui a dit à Abraham, prends Agar. Ou encore Jacob. Jacob qui est polygame. Jacob, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Jacob a été trompé par Laban et a épousé Léa. Mais lui, il voulait Rachel. Mais il a été obligé d'épouser les deux. C'est comme ça qu'il devient polygame. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. Dieu n'était pas d'accord avec ça. Ne parlons pas de David. David a eu plusieurs femmes, mais Dieu ne lui a jamais dit d'avoir plusieurs femmes. David a épousé Bathsheba parce que tout simplement, il s'était lié à elle. Et il s'est senti obligé de l'épouser. Mais après, la Bible nous montre qu'il l'a vraiment aimée. D'accord, de toutes ces femmes, c'est celle qu'il aimait le plus. Et avec qui il a eu Salomon. Salomon. Alors lui, c'est 300 femmes, 700 concubines. Lui, il était irrécupérable. Lui, on ne parle même plus de polygamie. Lui, c'est sans commentaire. Il a juste abusé. Vraiment, c'est quelque chose. Hein. Quand la Bible te montre des choses, tu t'arrêtes, tu dis « Ah Dieu, c'est avec les gens-là que tu as travaillé. Et c'est les gens-là que tu nous dis de prendre comme exemple. » Non, non, non. Non, ça, c'est compliqué. Donc, la polygamie n'est pas biblique. Car Dieu nous demande de nous attacher à la femme de notre jeunesse, à la femme que nous avons épousée. Que quelqu'un dise « Amen, amen. ». Dieu est monogame. Pour les maris, en ce qui concerne les maris, s'attacher à sa femme implique qu'on lui soit fidèle comme Dieu est fidèle à son épouse, l'Église. Dis avec moi l'Église. La monogamie est un principe spirituel qui vient directement du ciel où Dieu lui-même est le modèle par excellence de l'époux fidèle. Dieu se compare toujours dans la Bible à un époux jaloux. Et Jésus-Christ lui-même est présenté dans la Bible comme l'époux de l'Église. Tout ceci ne sont que des images de ce que nous, nous désirons expérimenter dans le mariage. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et l'Église, c'est ton épouse. À ceux qui sont mariés. Et à ceux qui veulent se marier, sache que celle que tu vas épouser demain, c'est ton Église. Si Jésus-Christ, un jour décidé de se séparer de son épouse, mon Dieu, on aurait des problèmes? Malgré tous les problèmes, toutes les bêtises, tous les manquements, tous les péchés que l'Église peut faire, Christ dit, c'est mon épouse. Et je reste fidèle à cette épouse-là. Amen. Parce qu'il a choisi d'aimer cette épouse-là d'un amour inconditionnel. Donc, quel que soit, ce que ton épouse peut être, c'est celle que tu as choisie et c'est celle avec qui Dieu t'a uni. Et tu dois l'aimer et t'attacher à elle sans condition. Amen. C'est extrêmement important. Parce que Dieu nous dit au travers de sa parole que si tu ne t'attaches pas à elle, tu ne peux pas être heureux. Alors, un homme qui n'est pas attaché à sa femme ne peut pas être heureux. Ce n'est pas possible. Tout homme qui se dit heureux, alors qu'il n'est pas attaché à sa femme, et que sa femme derrière ne reçoit pas l'amour qu'il doit lui donner, comme Christ aime son Église, cet homme-là ne peut pas être heureux. Il ne peut pas s'épanouir. Il va monter, descendre toute la vie. Il ne peut pas s'épanouir. Amen. Voici ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, au verset 25. Il y a beaucoup de passages qui parlent du mariage et de l'amour dans la Bible. Mais ce passage-là, quand deux conjoints ont des problèmes dans leur foyer, ce passage-là que vous voyez là, mon épouse et moi, on l'a imprimé sur un papier et puis on a mis ça sur le frigo. Comme le frigo, c'est l'endroit qu'on vient, c'est le truc qu'on vient ouvrir le plus pour manger, à chaque fois avant d'ouvrir le frigo, tu vois ça. Tu vois, je vois ce passage-là. Et il est un peu plus long parce qu'il commence d'abord avec les femmes. Mais là, j'ai pris juste le passage qui parle des maris, mais ça parle aussi de la femme. Éphésiens 5, au verset 25, nous dit ceci. Écoutons bien, parce que c'est très important pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui vont se marier bientôt. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, dis avec moi glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi, dis avec moi, c'est ainsi, que les maris doivent, dis doivent, aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Le mot aimer ici, Marie, aimez vos femmes. Le mot aimer ici, c'est le mot grec agapao. Agapao qui veut dire chérir. Honorer, respecter, valoriser, favoriser, lui être totalement dévoué. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, dans notre langage en français, le mot aimer, on l'utilise dans tellement d'expressions, dans tellement de manières de parler. Donc, il perd de son sens très souvent. J'aime le pain. Voilà, j'aime ma femme et puis j'aime le pain. Donc, j'aime ma femme comme j'aime le pain. Ça, c'est le français, qui n'est pas une bonne langue pour ça. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas choisi d'écrire la Bible en français. Dieu a choisi de l'écrire en hébreu, en grec et en araméen. Parce que c'est la langue qui exprime le mieux ce qu'il voulait dire. Et aimer ici, c'est le mot agapao qui veut dire aimer sans condition, la chérir. Et cet amour agapao pour sa femme, parce qu'ici je me focalise sur les hommes, cet amour agapao pour sa femme implique, il dit plus loin, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Dis avec moi, s'est livré pour elle. Cet amour agapao pour sa femme implique se livrer pour elle, c'est-à-dire se sacrifier pour elle. Voici la clé du bonheur, dans l'une des clés puissantes du bonheur dans le couple. Quand tu te sacrifies pour quelqu'un, tu te lèves le matin et tu regardes cette femme-là et tu dis, c'est pour elle-là, je me suis sacrifié. Je suis mort pour elle. Cela veut dire donner sa vie pour elle, s'abandonner totalement pour elle. Combien de maris voyons-nous aujourd'hui qui ne se sont pas sacrifiés pour leur femme, qui sont juste avec elle et qui traitent leur femme comme un objet banal et ne lui accordent pas de valeur? Il ne s'est pas livré pour elle. Et il ne peut pas être heureux. Elle, non seulement elle ne peut pas être heureuse, mais lui, il ne peut pas être heureux. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que les commandements de Dieu sont simples, mais c'est nous qui compliquons tout. C'est nous qui compliquons tout. Quand on regarde la vie des gens, les gens que je reçois, les gens avec qui je parle à la radio, les gens que je rencontre, beaucoup choisissent de souffrir. Il y a même des gens qui viennent ici, avec qui on parle. Ils sont dans des situations où ils disent, mais laisse ça, gay, laisse. Oh, mais tu souffres et tu vas souffrir, laisse. Donc il y a des gens, même Dieu ne peut rien faire parce qu'il a choisi de souffrir en fait. Il a choisi de souffrir. Et en tant qu'époux, s'attacher à sa femme veut dire la valoriser, veut dire la respecter, veut dire l'aimer et lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Amen. Tu ne peux pas épouser une femme pour qui tu n'es pas mort. Ta femme est tout pour toi. Et si Christ a choisi de mourir pour sa femme, l'Église, de même, les maris doivent prendre exemple sur lui et se livrer pour leur épouse et mourir pour elle. C'est la clé la plus puissante pour eux, pour être heureux. Un homme dont la femme est malheureuse, il ne peut pas prospérer. Je vous assure. Pour nous qui sommes mariés, ceux qui sont mariés vont se reconnaître. Le matin, quand tu te lèves et tu te prends la tête avec elle, je t'assure, ta journée est bousillée. Ta journée est bousillée. Un homme, quand il est en froid avec sa femme, je vous assure, même réfléchir là, il ne peut plus. Tu es là au travail, elle m'énerve. Prends le téléphone, non, je ne l'appelle pas. Ce qu'elle m'a dit là tout à l'heure, non. Tu n'es pas productif. Tu ne peux rien faire. Parce que Dieu l'a tiré de ta côte. Tu vois, non? Donc, là-bas, là, tu ressens, alors que tu es à l'autre bout de la ville, mais tu ressens ce qu'elle ressent. Elle est en train de pleurer, tu sais qu'elle pleure. Donc, tu ne peux pas. Mais quand elle est dans cet état-là, et que toi, tu es tranquille, Dieu dit, fils, tu as un problème là, sérieux, spirituellement. Parce que tu ne peux pas, c'est-à-dire ta chair de ta chair ne peut pas être à terre et mal et toi tu es bien. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est comme si tu me dis que le pied, on t'a tiré une balle dans le pied et puis la bouche sourit, oh tu vas bien. Non, ce n'est pas possible. Tu vas juste crier, c'est tout. Tu ne peux pas. Donc, Dieu dit, même s'il faut que tu quittes le travail aujourd'hui, que tu n'ailles pas travailler, va d'abord résoudre ton problème. Moi, mon épouse et moi, quand on se prend la tête, ça nous arrive à ne pas être d'accord. Ça nous arrive. Ça nous arrive de ne pas être d'accord. Et puis je pars, et puis je reste dans mon coin pendant un temps. Et puis je vais jouer le spirituel, je vais aller prendre ma Bible. Tu veux lire la Bible. C'est comme si la Bible t'est voilée, quoi, tu vois. Tu là, tu lis les passages, mais il n'y a rien qui vient. Ça t'énerve même de lire la Bible. Pourtant, tu aimes lire la Bible, mais là, ça t'énerve de lire la Bible. Après, tu dis, bon, je vais prendre de la musique, je vais me mettre un peu du song, et puis je vais écouter un peu. Il n'y a rien qui passe. Rien ne passe. Dieu dit, fils, je te connais et tu te connais. Tu sais que là, va la voir. Donc, je vais la voir et puis, elle est là, elle peut confirmer. Hein. Je lui envoie des textos. Bon, c'est fini, je suis désolé, je t'aime. Je ne veux pas qu'on se dispute. D'accord? C'est fini. D'accord? Et quand elle me réveille, elle va, pour elle, je sais les femmes comment elles sont, elle ne va pas répondre tout de suite. Elle va attendre avant de répondre. Juste histoire de te montrer que c'est elle qui contrôle, tu vois, non? Et après, elle te répond. Et quand elle te répond, c'est comme un souffle. Ouh, maintenant, je peux me remettre à travailler normalement. Voilà. Mais si tu ne fais pas ça, là, tu sais que le soir, l'atmosphère est tendue à la maison. Tu sais que tu n'as pas à manger. Comme tu ne sais pas préparer et que tu vas rentrer fatigué, ça va être compliqué. Tu vas manger certainement le pain avec le lait. Hein? Donc, tu sais qu'elle n'a pas préparé quand elle est rentrée. Et peut-être même que quand tu vas rentrer, elle est sortie. Elle est partie voir sa sœur ou je ne sais pas quoi. Donc, tu vas rester là seule, à la maison, tout seul. Elle a pris l'enfant, elle est partie. Tu sais que là, elle ne va pas rentrer avant 19h, 20h. Quand tu appelles, tu es où? Elle dit, je ne suis pas encore rentrée. Tu attends que je rentre. Voilà. Donc, tu es là. Ça t'énerve. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas tranquille. Dieu dit, tu ne peux pas être heureux, mon fils, quand tu t'es tiré une balle dans ton propre pied. Tu ne peux pas. Chair de ma chair, os de mes os. Donc celui qui n'est pas mort pour elle ne peut pas être heureux. Et c'est un principe important si tu veux être un mari heureux. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de maris qui se comportent de la mauvaise manière, qui se tirent eux-mêmes une balle dans leur propre pied, qui sèment eux-mêmes le trouble dans leur foyer et qui créent eux-mêmes leur propre destruction. Ils l'insultent, ils la dévalorisent, ils la frappent, l'agressent, la violentent, voire la détruisent. Ils ne la respectent pas, ils la rejettent. Et après, il dit, je suis heureux et j'aime ma femme. Dieu dit, fils, c'est pas possible. Moi, je suis un Dieu logique, tu vois, d'une certaine manière. Je suis un Dieu cohérent. Là, là, ce que tu dis, c'est pas cohérent. Hein? Le jour où tu vois quelqu'un dans la rue qui s'est tiré une balle dans le pied et puis il a l'air normal, dis-toi, c'est un esprit, fuis. C'est pas normal. Tu peux pas nuire à ta propre chair et dire que tu es heureux. C'est pas possible. Tu peux pas. Et tôt ou tard, cette confusion en toi, tôt ou tard, elle va se manifester. Tôt ou tard. C'est très important. Donc, ta femme, qui est ta propre chair, Paul dit, nous dit ici, tout comme tu nourris ton propre corps, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tout comme tu nourris ton propre corps. Tu n'as pas remarqué que quand tu fais plusieurs jours sans avoir mangé, le corps, au bout d'un moment, ça fait mal. De même que tu prends le temps de nourrir ton corps, de même Dieu dit, tu dois nourrir ta femme et l'aimer. L'amour ici, qu'il nous donne ici, a trois buts. Dis avec moi trois. Le premier but pour lequel il nous dit ici que l'homme doit aimer sa femme, c'est d'abord pour la sanctifier. Et il rajoute par la parole, ce qui veut dire la mettre à part, la consacrer, la sanctifier. C'est la première raison pour laquelle tu dois aimer ta femme, pour la sanctifier. Pourquoi ? Parce que la femme que tu prends, tu la prends, mais elle n'est pas encore cette femme parfaite-là que tu désires. C'est à toi de la rendre parfaite. Je vous ai dit une fois que Dieu, c'est un faiseur de mariage. Et voici comment Dieu fait le mariage. Dieu prend, te dit, regarde ta femme. Tu vois cette femme-là? Tu vois cette femme-là dont tu te plains? Dieu dit, voici un fil et voici une aiguille. Cours et crée toi-même la femme que tu veux. Sépare l'attitude, le comportement, les paroles et l'amour que tu vas donner à ton épouse, qu'elle va devenir meilleure chaque jour et ressembler à cette église glorieuse, sans tache ni ride que tu veux. Personne n'est parfait et ta femme n'est pas parfaite. Mais c'est à toi de la rendre parfaite. Je t'assure, le jour où tu prends la décision de regarder ta femme autrement, et de voir en elle une femme de valeur, une femme de distinction, une femme remplie du Saint-Esprit, la femme qui te rend heureuse, la mère de tes enfants, etc. Je t'assure, ça change toute ta vie. Ton foyer change complètement. Dieu dit, c'est à toi de prendre cette décision. Maintenant, voici le fil et l'aiguille. Écoute, quand elle fait des remarques, tout comme Christ reprend son épouse, toi aussi reprends ton épouse avec amour. Tout comme Christ sait enseigner son épouse, toi aussi enseigne-la. Tout comme Christ sait parler avec douceur à son épouse, toi aussi parle-lui avec douceur. Tout comme Christ sait être ferme avec son épouse, toi aussi sois ferme aussi avec elle pour faire d'elle la femme glorieuse, l'église glorieuse. Quand elle est assise dans le salon, là, tu la regardes et puis tu dis, mon église, ah c'est mon église. Moi je suis pasteur d'une église aujourd'hui. Parfois on commence le culte ici à 10h15, 10h20, il n'y a personne. Mais vous venez, je suis toujours pasteur, non? Vous imaginez, vous arrivez à 10h30, oh, mais où est le pasteur? Il n'y a pas culte aujourd'hui. Le pasteur a dit, oh, vous le fatiguez, il est parti. Tu dois aimer l'église de Christ. C'est de la même manière pour la femme. Quel que soit ce qu'elle fait, tu dis, c'est pas grave, chérie. On est ensemble. La première raison, c'est pour la sanctifier par la parole. La deuxième raison, c'est pour la purifier par le baptême d'eau, c'est-à-dire l'amour agapao, qui a la capacité de la laver de toute souillure intérieure, blessure, frustration, séquelles passées, etc. Le but du mari n'est pas de donner à sa femme davantage de frustration, mais plus d'amour. Dis avec moi d'amour. Et la purifier dans son cœur afin qu'elle soit meilleure. La femme que tu épouses, elle a un passé. Elle vient d'une famille. Elle a expérimenté des choses dans sa vie. Et c'est normal qu'elle ne soit pas parfaite, puisqu'elle a tous ces bagages-là avec elle quand elle arrive dans le foyer. C'est à toi qui es le chef de famille de la purifier, de la laver. Et non de venir rajouter encore davantage de frustration. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est très important. Et c'est le rôle du chef de famille de purifier son épouse. Et non de la frustrer davantage. Et la troisième raison, c'est pour la faire paraître devant lui glorieuse, c'est-à-dire resplendissante de grâce et de beauté. Tu rêves de la femme resplendissante, pleine de grâce. Mais ton épouse est là? Où est les diamants? Le diamant. Quand on trouve un diamant sous terre, ça ne ressemble pas à un diamant, ça ressemble à tout sauf un diamant. C'est plein de cailloux, plein de saleté. Et l'homme, quand il prend le diamant, il doit la polir, la tailler, etc. Et ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Pour en faire cette pierre précieuse qui brille et qui vaut cher. Et notre travail, nous, en tant qu'époux, c'est de donner cet amour-là pour pouvoir polir cette pierre-là. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés, là, il faut bien écouter. Hein. Parce que vous avez encore un peu de temps devant vous pour pouvoir mieux vous préparer. Ceux qui sont déjà dedans doivent maintenant corriger et s'améliorer à certains niveaux dans leur vie. Amen, gloire à Dieu. Et il dit, c'est ainsi que doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Regardez, je vais vous lire la version parole vivante qui est encore plus intéressante. Elle est plus intéressante. Il dit, oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, c'est aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qu'il haït son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre manière d'aimer son épouse que comme ça. Est-ce que tu peux dire avec moi s'attacher à sa femme? S'attacher à sa femme. Donne à ta femme une semence dans son sein et elle te donnera un bébé. Donne à ta femme de l'amour et elle te donne un foyer heureux, prospère et stable. Donne à ta femme la haine et la violence et elle te donne un enfer à la maison. C'est un principe. C'est aussi simple que ça. L'enfer à la maison, c'est quoi? C'est la tristesse, les pleurs, les cris, l'angoisse, l'inquiétude, l'incertitude, les mauvaises ambiances, la froideur, toutes ces choses. Ah, c'est ça l'enfer à la maison. Parce que tu ne peux que récolter ce que tu as semé. Amen. Et si tu sèmes l'amour, tu récolteras la vie dans ta maison. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la mort et la destruction de ton foyer. Sème l'amour, sème la douceur, sème la paix, chéris-la. Parfois, ça peut être tendu, il peut y avoir des désaccords, mais sème toujours ce que tu veux récolter. S'attacher à son époux, à son conjoint, deuxièmement, signifie être transparent entre vous. Dis avec moi, être transparent. La transparence dans le mariage est un facteur de paix et de stabilité très important. On ne peut pas prétendre au bonheur dans le foyer si on n'est pas vrai entre nous et si on se cache des choses l'un à l'autre. Et ça, malheureusement, on le voit dans beaucoup de couples ici. Genre, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Chacun garde pour lui. Regardez ce que la Bible nous dit. On revient sur Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Quand on est marié à quelqu'un, la honte ne doit pas exister entre nous. On se connaît intimement et la nudité de l'un et de l'autre ne doit pas poser de problème. Tout est transparent entre nous. Aucune cachotterie. Et cette nudité, elle n'est pas juste physique. Cette nudité, elle est aussi affective, morale, intellectuelle, spirituelle. Tu connais tout de ton conjoint. Et il connaît tout de toi. Et c'est ça qui fait votre bonheur. Parce que vous vous connaissez. Donc vous arrivez à vous anticiper. S'exposer mutuellement et volontairement. Exposer nos états affectifs, nos états moraux. S'ouvrir l'un à l'autre. Se confier l'un à l'autre. À tous les niveaux. Et ça, c'est une clé très importante. L'un des problèmes majeurs que l'on rencontre aujourd'hui dans les couples, c'est le manque de communication. Les couples qui ne se parlent pas. Les couples qui ne s'ouvrent pas l'un à l'autre. Et ça, ça détruit beaucoup de couples. Ils n'ont peut-être pas commis l'infidélité, mais il y a ce que les gens du monde appellent incompatibilité d'humeur. Ils n'arrivent plus à être compatibles. Vous savez, quand Dieu dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le mot semblable, là, quand vous allez chercher dans l'hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire compatible. C'est pour ça que la version Darby traduit « Je lui ferai une aide assortie à lui ». Ça, c'est la version Darby. Et une autre version dit « Une aide qui lui correspond ». Donc, le jour où tu choisis de t'épouser cette femme-là, elle t'est assortie, elle te correspond, elle est compatible. Comment ça se fait qu'arriver dans le mariage, vous n'êtes plus compatibles tous les deux? Parce qu'au bout d'un certain temps, le courant ne passe plus. Tu as fermé les vannes, tu ne communiques plus avec elle. Tu n'es plus transparent avec elle. Elle te demande où tu vas, oh, ça ne te regarde pas. Elle te demande combien tu as dépensé ce soir au restaurant, ça ne te regarde pas. Combien tu as gagné d'argent ce mois-ci, ça ne te regarde pas. Mais c'est ton épouse, hein? Hey, elle a droit sur toi. Elle a droit. Dis avec moi, elle a droit. Elle a droit. Elle a même le droit de t'appeler pendant que tu es au restaurant en affaire avec des gens et puis elle te dit, tu rentres tout de suite. Rentre. Elle a droit. Chérie, ce soir, je rentre tard. Non, tu rentres pas tard. J'ai besoin de toi ce soir à la maison. Pourquoi? Je rentre. Non, je t'ai dit, tu rentres à 19h au plus tard. Mais tu te crois où là? C'est moi qui commande. C'est pas toi qui commande dans la maison. On est deux ici. Tu es peut-être le chef de famille, mais j'ai droit sur toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et celui qui fait des cachotteries dans son couple, prouve par là qu'il n'est pas attaché à elle. Proverbe 19, 5, Salomon nous montre que toute personne qui n'est pas transparent avec son conjoint court lui-même à sa perte. Proverbe 19, au verset 5, dit « Le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. » Au verset 9, il dit « Celui qui dit des mensonges court à sa perte ou encore périra. » Proverbe 20, au verset 17, il dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard sa bouche est remplie de... » gravier. Essayez un peu de prendre l'image, parce que j'ai toujours dit que quand Dieu prend des images, c'est toujours avec beaucoup de sourire en fait, mais c'est profond. Celui qui remplit sa bouche de mensonges, plus tard sa bouche est remplie de gravier. Alors, si tu veux vraiment comprendre la profondeur de ce verset, tu vas dehors et tu prends du gravier, il y en a plein là à la porte, et puis tu mets ça dans ta bouche. Et puis Dieu dit, c'est ça mentir. C'est ça mentir. Et chaque fois que tu caches des choses à ton conjoint, Dieu dit, tôt ou tard, tu auras du gravier dans la bouche. En gros, ça va te causer des problèmes. Le fait d'être transparent envers son conjoint est une preuve d'amour qui vient de Dieu. Et dire la vérité à l'autre est la meilleure preuve d'amour. Même quand la vérité est difficile à dire, c'est la meilleure preuve d'amour. Amen. Et enfin, le dernier point. S'attacher à son conjoint, s'attacher à son époux signifie être un avec lui. Dis avec moi, être un. Il s'agit ici d'unité. L'unité est l'élément principal qui fait la force d'un couple. Je vous assure, quand deux personnes mariées sont un, je vous assure, le diable ne peut rien faire. Tout couple où il y a une absence d'unité est appelé à être détruit. Aucun mariage ne peut subsister quand il n'y a pas d'unité. Cherchez toujours l'unité. Et toute chose ou toute personne qui vient se mettre entre toi et ton conjoint est diabolique. quelle que soit la circonstance et quelle que soit la personne. Toute personne qui vient se mettre entre toi et ton conjoint, c'est le diable. Même si c'est quelqu'un de ta famille, c'est diabolique. Parce que cette chose-là n'a qu'un seul but, vous séparer. Parce que le diable sait que quand vous êtes unis, vous allez droit vers votre domination. Vous allez droit vers votre prospérité, votre succès. Vous courez vers votre destinée et vous ne pouvez, personne ne peut vous arrêter. Parce que Dieu vous a créé pour ça. Donc, toute personne qui vient s'immiscer dans votre couple, tout événement qui vient s'immiscer dans votre couple, c'est le diable. Le diable est rusé. N'oublions jamais ça. Et le diable, rappelez-vous que dès que l'homme fait sa déclaration, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront tous deux une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Point. Dieu faisant de mariage, le mariage est scellé. Le verset d'après, vous avez regardé. Le serpent vint et commença à parler avec Ève. Le serpent, c'est qui ici? C'est le diable. Le diable, dès qu'il découvre qu'un couple est uni, dur comme fer, pour lui, c'est un danger potentiel. Particulièrement si ce couple est chrétien et pris. C'est un danger potentiel pour son royaume. Et le diable fera tout pour détruire les couples qui sont unis. Amen. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Et l'unité dans le couple est trop important. Regarde encore ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ insiste tellement là-dessus, connaît tellement l'importance de l'unité qu'il insiste là-dessus. Matthieu 12, au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume, divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Et regardez ce que la version courante nous dit encore. Elle est encore plus intéressante. Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Ah, ça parle. Hein? Je vous assure, le jour qu'on a un problème avec son conjoint dans la maison, prenons la parole de Dieu. Elle nous donne des réponses. Dieu dit, vous n'avez pas le choix, vous devez être unis. Si vous êtes désunis, vous allez périr. Votre couple va partir en vrille. Que quelqu'un me dise amen. C'est extrêmement important. L'unité est tellement importante pour Jésus. Tellement importante pour Jésus qu'il en a fait le sujet principal de sa prière sacerdotale, c'est-à-dire sa dernière prière avant de partir. Vous ne vous rappelez pas? Livre de Jean, au chapitre 17, au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et l'unité parfaite entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit symbolise cette unité-là que nous devons avoir dans notre foyer, dans notre famille. Rappelez-vous, je le rappelle encore à nouveau, souvenez-vous toujours que la Bible, c'est l'histoire d'une famille qui a été brisé dès le départ et que Jésus-Christ est venu restaurer. Et pour pouvoir symboliser pleinement cette unité-là, Dieu permet que le couple soit fécond et ait un enfant. Tout comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois sont un, ce qu'on appelle la Trinité, de même, cette unité-là arrive à son summum lorsque l'enfant arrive. Lorsque les enfants arrivent dans la maison. Et lorsque les enfants arrivent dans la maison et que tout le monde est uni, vous avez déjà vu des familles, papa, maman, les trois enfants, quand ils sont tous en train de prier dans le salon. C'est dangereux. Hein? Quand une famille commence à prier, oh, même le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Ah, je vous dis, hein, quel que soit le problème que vous avez à la maison, même si c'est pour ressusciter un mort, papa, maman, les enfants, on se lève, on dit on prie toute la nuit. Je vous assure, le ciel va s'ouvrir pour vous. Ah oui, c'est puissant. L'unité dans le mariage, c'est très important, et particulièrement dans la famille. Et ça, on aura l'occasion de le voir plus loin. Pour finir, l'unité dans le mariage se décline en 5 niveaux. Il y a 5 choses à retenir en ce qui concerne l'unité que le Seigneur m'a montré dans la parole. Premièrement, il y a l'unité physique. On devient un physiquement lorsqu'on s'unit avec quelqu'un. Ça, c'est l'unité qui se fait au niveau de la chair lorsque l'on est marié et qu'on couche ensemble. C'est là que l'union se fait. Amen. Et voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux les unions sexuelles. On en a beaucoup parlé ici ces dernières semaines. Il ne faut pas jouer avec. S'unir avec quelqu'un sexuellement, c'est unir sa vie. C'est s'unir spirituellement avec cette personne. C'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6 que tout homme qui s'unit à une personne, à une femme qui n'est pas sa femme, pêche contre son propre corps. Les unions physiques avec d'autres personnes sont le meilleur moyen pour le diable de passer de corps à un autre, de démon à démon. Un démon, quand il veut rentrer dans le corps de quelqu'un et que toi tu choisis de coucher avec cette personne-là, le démon dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Il ne va pas dire « Gloire à Dieu », il va dire « Gloire à moi-même ». Donc, il ne faut pas jouer avec les unions sexuelles illicites. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est pour ça que la Bible insiste là-dessus. Et aujourd'hui, dans notre pays, les unions sexuelles illicites, oh mon Dieu, c'est un vrai fléau dans notre société. Et ça détruit la société. Et aujourd'hui, Dieu permet qu'il y ait des personnes qui se lèvent et qui disent ça maintenant haut et fort. Il faut arrêter vos bêtises là. Ce n'est pas ça le mariage. Et si Dieu le dit haut et fort dans la Bible, le pasteur Luc Condias va le dire haut et fort devant les gens. Et que les gens vont l'entendre. L'union physique. Amen. Deuxièmement, l'unité culturelle. Quand on s'unit avec quelqu'un, on s'unit culturellement. Quand vous vous mariez, vous venez chacun avec votre identité culturelle. Et cette identité culturelle vous a été donnée par votre histoire, votre vie passée, vos expériences passées, votre famille, vos traditions, etc. Et lorsque vous vous unissez en Christ, la culture qui prévaut maintenant entre vous, c'est la culture du royaume des cieux. Dis avec moi, la culture du royaume des cieux. C'est la culture qui prévaut. La manière dont tu diriges ton couple, on doit voir la culture du royaume dans ton royaume et non la culture du monde. Il faut arrêter avec les chrétiens, il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme des gens du monde dans leur maison. La culture du royaume. Des trucs simples, par exemple. Regarder la télévision. On peut regarder la télé, on peut regarder des films, mais il y a certains films que tu ne peux pas regarder. Je ne parle pas des films pornographiques, je parle des films parfois à caractère très violent, par exemple. Ou bien dès que le langage dans un film commence à déraper, c'est des paroles qui sont dans ta maison et puis tu... c'est pas notre culture ici, là, on ferme ça tout de suite. On ferme ça tout de suite. Moi, ma fille, elle a 4 ans. Et à 4 ans, parfois, elle aime regarder des dessins animés à la télé. Et on surveille ça. Dès que j'entends un mot sorcier ou magie, je dis, on éteint. Elle me fait tout un boucan, j'ai dit, on éteint. C'est pas notre culture, ça, ma fille. Ça, c'est la culture du royaume des ténèbres. C'est pas notre culture. Et la culture qui doit prévaloir dans le couple, c'est la culture du royaume. C'est très important. On a eu un enseignement de 1 mois là-dessus, je vous assure. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, écoutons-le pour que nous tous, on ait la même culture. L'unité, troisièmement, matérielle. Lorsqu'on se met avec quelqu'un en tant que marié, on décide de mettre tout en commun. Pourquoi est-ce que je parle de l'unité matérielle ici? Eh bien, parce que tout simplement, après avoir fait mes petites investigations, je découvre qu'il y a des chrétiens qui s'unissent en séparation de biens. J'ai dit, oh, séparation de biens. C'est-à-dire, quand vous allez à la mairie vous propose ça. Mais la mairie, c'est le monde. Et la mairie vous propose, vous vous unissez en bien commun ou bien en séparation de biens? Ah non, 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 séparation de biens. Ah non, ah, chacun va garder. Le diable est déjà entre vous, là. Le diable est déjà entre vous. Vous vous mariez, au moment où vous vous dites oui, ils sont mariés en séparation de biens. En fait, vous êtes déjà en train d'annoncer votre séparation à tout le monde. Votre couple ne tiendra pas. Vous êtes en séparation de biens. Spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Chacun son compte bancaire, pas de compte joint. Chacun sa voiture, chacun ses biens immobiliers. Attention, on ne touche pas au bien de l'autre. Ah, on prévoit un jour, tu sais, on ne sait jamais. On prévoit un jour. Ce n'est pas biblique. C'est diabolique. C'est diabolique. Les apôtres l'avaient compris. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est un standard du royaume. C'est une norme. Et se marier sous le régime de la séparation des biens n'est pas de Dieu. Amen. Avant-dernier point, l'unité émotionnelle. L'unité émotionnelle, c'est l'unité de l'âme. Philippiens 2, au verset 1, je le répète encore à nouveau, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. » Dis avec moi, une même âme. Une même âme. C'est-à-dire, quand l'âme de l'autre est attristée, tu es aussi attristé. Quand l'âme de l'autre est en colère, ça ne peut pas te faire du bien. Si l'âme de l'autre est heureux et en joie, tu es heureux et en joie. Vous êtes une même âme. Et ça, c'est une force puissante pour le couple. L'âme, c'est le mot en grec ici, psouké, qui veut dire le siège de nos émotions, la volonté, le siège de nos pensées. Et l'âme, c'est très important d'en prendre soin dans le cadre du mariage. Parce qu'une âme qui est atteinte, qui est affectée, qui est attristée, ça pourrit un mariage. Et quand l'un des conjoints est affecté au niveau de son âme, votre foyer ne peut pas prospérer. Qu'est-ce que j'entends par affecté? Je parle par exemple, si votre conjoint a subi des blessures psychologiques, tu dois veiller à l'âme de ton conjoint. Parce que son âme et ton âme sont attachées. Si son âme est atteinte physiquement, psychologiquement et psychiquement, ton âme aussi est atteinte. Et si tu refuses de le voir, tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est très important. Amen. Et l'unité émotionnelle, on ne doit jamais permettre qu'elle doit être atteinte. Jamais. Jamais. Le fait juste qu'une personne dit une parole sur ton conjoint et tu sais que ça l'a affecté, quelle que soit cette personne-là, tu la reprends en lui disant « Tu ne touches pas à l'âme de mon épouse, toi. Fais gaffe. Parce que tu touches à son âme, tu touches à mon âme. » Et enfin, la dernière unité, c'est l'unité spirituelle. 1 Corinthiens 1, 10 nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » Parfaitement unis. Parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'unité spirituelle indique que vous devez partager la même foi et croire au même Dieu. Spirituellement, vous allez dans le même sens, dans la même direction. Vous avez la même volonté. Vous avez pris la même décision de cheminer ensemble. Vous êtes un spirituellement. Vous priez ensemble. Vous avez la même crainte de Dieu. Quand un couple est uni spirituellement, vous voyez dans la maison, ils ont la même crainte de Dieu. Spirituellement, dès qu'il y a quelque chose qui entre, si l'autre dit, c'est-à-dire l'autre automatiquement est d'accord. On ne se pose même pas de questions. On est un spirituellement. Et cette unité, elle est très importante. La même foi. Et quand vous avez la même foi, quand vous êtes un spirituellement, vous êtes redoutable pour le royaume des cieux. Vous êtes redoutable. Et vous pouvez ensemble mener les mêmes combats. Et on va terminer par ça. Regardez ce qu'il nous dit dans la version Parole Vivante. C'est une traduction que j'aime beaucoup de ce verset. « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Et accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente, cherchez ce qui vous rapproche, essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune afin de former une unité de quoi ? Combat indivisible. Ah ! Voici les conquérants de Dieu, monsieur et madame, les familles. Et je vous assure, par la grâce de Dieu à la maison du bâtisseur, on aura des familles solides, unies dans les liens du mariage sur la base de la parole de Dieu. Et quand on se lèvera dans la prière, lorsque les familles se lèvent, on est dangereux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais qu'on incline la tête. On va prier. Je voudrais que tu, pour si tu n'es pas marié, je voudrais que tu dises, Seigneur, merci encore pour ces paroles qui m'instruisent et qui me donnent, qui m'éclairent, qui me donnent de la sagesse afin que je me prépare avec succès pour mon mariage. Si je suis avec quelqu'un et que je suis amoureux, amoureuse de cette personne et qu'on chemine ensemble depuis un certain temps, alors Seigneur, accorde-nous la grâce de nous corriger, de nous ajuster à ta parole afin, Seigneur, que notre mariage demain soit à ta gloire. Et si je suis marié, si nous sommes mariés, alors Seigneur, merci pour ta parole qui vient encore nous donner de la sagesse pour bâtir un foyer solide en Christ, Père. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi soit la louange et à toi soit l'adoration, Père de grâce. Merci encore pour ta parole qui vient et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci pour ta parole qui vient, Seigneur, corriger, ajuster, Seigneur, rectifier, restaurer, guérir, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour les couples mariés, Seigneur, que tu fortifies, que tu restaures, Seigneur, afin que chacun prenne conscience, Père de grâce, de l'importance de s'attacher l'un à l'autre, Seigneur. Parce que tu nous montres, au travers de ta parole, que c'est un principe, c'est une clé divine pour prospérer dans le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous te disons merci, Père, pour la révélation de cette parole, Seigneur, qui nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Merci pour tous les couples mariés de la maison du bâtisseur et merci pour tous les couples mariés qui écoutent, Seigneur, cet enseignement, Père. Merci parce que tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de chacun. Merci parce que tu fais des choses extraordinaires et merci, Père, parce que tu n'as pas encore fini de nous étonner, Père de grâce. Merci, Père, pour tous les couples qui ont été brisés. Merci parce que tu restaures ces couples. Merci parce qu'à la lumière de ta parole, Seigneur, tu révèles à tous les couples brisés l'importance de s'attacher l'un à l'autre afin d'être heureux, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père, pour tous les écarts. Nous te demandons pardon, Père, pour tous les péchés, pour toutes les fautes et pour toute, Seigneur, action, tout comportement qui t'a déshonoré, Seigneur, dans, Seigneur, les couples, Seigneur. Et nous prions que maintenant, Seigneur, tu recommences, Père, à faire quelque chose de grand et de magnifique, Seigneur, dans ces couples, Père. Merci pour tous les conflits que tu résous. Merci, Père, pour tous les couples que tu restaures. Merci pour les âmes brisées, Seigneur, pour les âmes blessées, Seigneur, que tu guéris. Et merci, Père, pour les hommes et les maris, Seigneur, que tu ramènes, Seigneur, à la maison afin qu'ils jouent leur rôle de chef de famille et tête du foyer, Père, au nom de Jésus-Christ. Et quand ils s'attacheront l'un à l'autre, quand le mari s'attachera à sa femme, merci, Père, parce que, Seigneur, tu déverses ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, sur ces foyers, au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui ne sont pas mariés, merci, parce que tu leur révèles encore ta parole afin qu'ils s'ajustent et qu'ils marchent, Seigneur, à la lumière de tes commandements. Merci, Père, pour ta parole qui édifie et qui nous construit afin que nous soyons tous parfaits demain à la stature parfaite de Christ, Père. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans cette génération et dans cette nation, Seigneur, le Gabon. Merci pour toutes les familles que tu restaures, Seigneur, dans ce pays, dans cette nation. Merci pour tous les pères irresponsables qui ont déserté, que tu ramènes à leur maison, à leur foyer. Merci pour tous les enfants perdus que tu retrouves. Merci pour tous les mères brisées que tu restaures. Merci pour toutes les familles, Seigneur, que tu renouvelles, Père, au nom de Jésus, afin de bâtir, Seigneur, une société à ta gloire. Merci parce que tu te révèles à cette génération au travers, Seigneur, de ton Église que nous sommes. Merci, Père, parce que l'Église que nous sommes, tu nous utilises afin de te révéler, Seigneur, au plus grand nombre. Seigneur, au travers des familles et de l'amour, Seigneur, que Christ, Seigneur, déverse dans toutes les familles. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, Père, pour l'œuvre que tu fais. À toi, Seigneur, l'honneur et à toi soient nos acclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un se lève et acclame le Seigneur en disant gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour l'amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.